Justine Pasteur, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, pour introduire un petit peu le sujet, en quoi consiste la dermatite atopique, une maladie, et on va en parler justement à travers un sondage qui vient d'être dévoilé, une maladie que peu de gens finalement connaissent.
Alors la dermatite atopique, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau. C'est plus communément ce qu'on appelle l'eczéma, et l'eczéma atopique en particulier. C'est une maladie qui est très fréquente dans la population générale, qui est surtout fréquente chez les enfants et les bébés. Beaucoup de patients connaissent cette maladie par leurs enfants, mais c'est une maladie qui peut se dévoiler tout au cours de la vie, et surtout avoir des formes sévères qui sont souvent mal connues. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'en parler aujourd'hui.
Est-ce que déjà elle peut évoluer au fil du temps, et si oui, de quelle manière elle prend forme ?
Alors oui, ça peut évoluer au cours de la vie, c'est-à-dire que souvent la forme classique, c'est la forme du nourrisson, avec des plaques d'eczéma des joues, des fesses, quelques petites plaques en fait qui vont être très bien traitées par les crèmes à base de cortisone. Et puis malheureusement, parfois on est face à des cas sévères avec des eczémas généralisés et du coup des sensations démangeaises très intense. On peut avoir après des troubles du sommeil, des troubles des apprentissages. Et ça, finalement, ça évolue un peu par poussée. C'est-à-dire qu'un individu peut avoir des crises sévères durant l'enfance, puis plus rien jusqu'à l'âge adulte, refaire des poussées plus ou moins sévères à l'adolescence, à l'âge adulte. Et puis, on a aussi des patients qui déclarent une forme sévère finalement que à l'âge adulte ou que à l'adolescence, sans avoir eu vraiment de prémices très importants au cours de la vie. Après, voilà, les formes sévères, ça se manifeste surtout par une atteinte généralisée de la maladie et une qualité de vie qui va être très altérée par cet eczéma.
Ce sondage parle même d'isolement. On sent qu'on ne touche pas qu'au médical, on touche aussi au social. En quoi cette maladie peut transformer une qualité de vie en isolement ? Ça peut être un handicap au quotidien.
Les patients déclarent souvent, finalement, que c'est une maladie qui est pas très grave et qui est dans l'imaginaire commun, l'eczéma, c'est une maladie de peau qui gratouille, mais qui n'est pas grave. Et finalement, quand on est vraiment face à des patients qui ont une atteinte modérée à sévère, ils décrivent vraiment cet isolement, parce qu'on a des plaques sur les mains, sur le visage. Alors, quand c'est à l'école, les petits copains vont se moquer. Est-ce que c'est une maladie infectieuse ? Plus on grandit, plus on a aussi ce regard des autres. Donc, il y a un côté esthétique qui est franchement prenant. Et puis, il y a un côté aussi très gênant au quotidien par le fait de se gratter. Donc quand on se gratte, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à dormir, on a du mal à se faire toucher, c'est-à-dire que les patients décrivent bien qu'ils n'ont pas envie que quelqu'un les regarde, donc les déshabille, quelqu'un les touche. Ils ont la peau qui est très sensible, donc les relations sociales sont vraiment altérées, et les relations intimes aussi. C'est pour ça que ces patients-là vont souvent s'isoler, ils vont avoir du mal à communiquer aussi sur leur maladie.
Vous avez parlé de poussées d'eczéma tout à l'heure. Avec quelle intensité évoluent ces formes graves ? Est-ce que c'est assez progressif ou justement plutôt soudain et donc difficilement aussi prévisible ?
Alors, il peut y avoir en fait les deux. C'est-à-dire qu'on a des patients qui font vraiment des poussées très sévères, très brutales. Puis au contraire, on a des patients chez qui les formes, les poussées vont être plutôt progressives. Ils ont le temps, entre guillemets, de voir venir. Ils savent les premiers symptômes. Et donc là, pour le coup, c'est quand même souvent plus sympa pour eux, puisqu'ils arrivent à traiter rapidement la poussée et maintenir la maladie. Mais on a des patients chez qui la poussée peut être vraiment très aiguë et très très forte d'un coup.
Selon une enquête OpinionWay commandée par le laboratoire Léo Pharma, 51% des sondés déclarent savoir qu'il existe aujourd'hui une prise en charge médicale, qu'elle est possible. Déjà, en quelques mots, en quoi elle consiste, cette prise en charge médicale ? Comment aujourd'hui on peut prévenir, traiter, voire peut-être même guérir cette dermatite atopique ?
Si on peut rebondir sur le chiffre, avec 51%, finalement, c'est la moyenne, mais on se dit qu'il y a quand même 49% qui ne sont pas au courant qu'il peut exister une prise en charge pour cette maladie. Donc c'est important, je pense qu'on en parle aujourd'hui pour rapporter aux patients ou aux familles de patients qu'une prise en charge existe et qu'on peut vraiment changer la qualité de vie de nos patients aujourd'hui. Alors la prise en charge, elle est assez simple finalement, puisqu'elle peut déjà être réalisée par le médecin généraliste, avec tout simplement, finalement, une hygiène de vie, une hygiène cutanée, on va dire, de base, avec l'utilisation de savon adapté à la peau atopique, des crèmes hydratantes adaptées à la peau atopique, et puis après, le traitement vraiment dépoussé par les crèmes à la cortisone. Ça, c'est vraiment le traitement, on va dire, de base de la dermatite atopique, surtout dans les formes légères à modérées. Et puis, ce que vraiment les gens doivent comprendre et doivent connaître aujourd'hui, c'est que les crèmes à la cortisone, ce n'est pas la fatalité. Aujourd'hui, si ces crèmes à la cortisone ne sont plus efficaces ou on a une consommation importante de la cortisone, on peut aujourd'hui avoir accès à des médicaments qui permettent de moduler un petit peu le système immunitaire cutané et permet de vraiment... Alors, on ne guérira pas la dermatite atopique. Il n'y a pas de traitement qui guérit aujourd'hui de la dermatite atopique. Mais on a des traitements qui permettent de ne plus avoir de symptômes ou en tout cas d'avoir une qualité de vie et des symptômes vraiment au plus bas, quoi.
C'est-à-dire qu'on aura toujours la dermatite atopique en soi, mais on aura peut-être plus de démangeaison, plus de rougeur, de plaques cutanées.
La dermatite atopique, c'est finalement un état qui va être chronique et qui va se manifester par poussée plus ou moins forte dans la vie. Quand on a une dermatite atopique, on ne va pas pouvoir changer la génétique du patient, l'environnement du patient. Et donc finalement, ça, il l'aura un peu toujours. La dermatite atopique, pour expliquer, on va dire rapidement, c'est lié à des modifications un peu génétiques de la peau qui la rendent plus perméable aux allergènes, aux irritants et aussi plus du coup perméable à l'eau, donc la peau va devenir toute sèche, et puis aussi à une inflammation cutanée qui va être très importante et on va dire un peu déréglée chez ces patients. Donc ça, nous, on n'a pas moyen par exemple de rendre une peau atopique, une peau on va dire entre guillemets normale, qui va avoir du coup des propriétés de, on va dire, de peau normale. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'inflammation avec les crèmes à la cortisone et avec les traitements systémiques actuellement.
Autant l'hygiène de base, ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien, sur les crèmes ou sur les traitements médicamenteux, est-ce que c'est des prises en charge qu'il faut suivre absolument toute sa vie, qu'on doit garder de manière permanente pour éviter que la dermatite atopique ne se manifeste encore sous des formes gênantes, voire graves?
Alors oui et non, parce que comme on le disait, finalement la dermatite atopique, ça évolue par poussée. Donc parfois on va avoir des grosses poussées pendant 3-4 ans. Donc dans ces cas-là, il faudra avoir un traitement pendant 3-4 ans. Et puis bah, après, ça peut parfois s'endormir, entre guillemets, et finalement laisser le patient tranquille. Et dans ces cas-là, à part l'hygiène de vie, on va dire, adaptée à l'atopie, il n'y aura pas besoin d'avoir un traitement au long cours. Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui, c'est que finalement, les traitements systémiques sont encore récents, qui marchent très bien. Donc on est très content, on prescrit ces traitements aux patients. Les patients sont souvent hyper heureux avec une qualité de vie qui est remarquable. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas bien encore finalement quand est-ce qu'on va arrêter les traitements, si on va faire des traitements un peu séquentiels. Ça, en fait, on est encore un peu au début, on va dire, de ça. Parce que nos patients sont améliorés, sont contents et certains ne veulent pas arrêter non plus les traitements. Mais probablement qu'on arrivera dans l'avenir à faire des traitements de quelques mois, peut-être années. Et puis après, le patient sera tranquille quelques temps. Voilà. Après, ça marchera peut-être pas chez tous les patients, par exemple.
L'étude le montre, et vous le dites aussi, qu'aujourd'hui, les patients, la population n'est pas suffisamment informée à la fois sur la maladie et sur sa prise en charge. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aussi? Est-ce que vous ressentez un désintéressement aujourd'hui des maladies qui sont peut-être un peu plus spécifiques, notamment les maladies de la peau, du fait, par exemple, qu'on ne consulte pas régulièrement un dermatologue? Est-ce qu'il y a comme ça un désintéressement, un manque d'intérêt qui plane de plus en plus?
Alors, je pense que c'est lié surtout au fait que, finalement, pendant de nombreuses années, on n'avait pas de traitement vraiment novateur de ces pathologies. Des patients ont toute leur vie vu des médecins généralistes ou des dermatologues qui proposaient finalement toujours les mêmes crèmes à base de cortisone. Et les patients ont parfois eu du mal à comprendre que les crèmes... étaient efficaces quand on les appliquait et finalement ça revenait après. Donc c'est vrai qu'il y a une lassitude, je pense, des patients à avoir toujours en gros la même prescription. Et puis les médecins se sont aussi probablement un peu désintéressés parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à proposer. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du coup d'autres solutions à proposer à ces malades. Et donc, ça vaut le coup de se réintéresser à cette maladie. Après, c'est vrai que la dermatologie, c'est probablement une des spécialités assez spécifiques qu'on apprend, on va dire, quand on est étudiant en médecine. Mais après, quand on se spécialise dans d'autres pathologies ou en médecine générale, où on spécialise dans énormément, enfin, on doit être très bon en cardiologie, très bon en pneumologie, et bien finalement, la dermato peut passer un petit peu inaperçue parce que les traitements étaient pour l'instant pas très novateurs et qu'on n'avait pas grand-chose à proposer aux patients.
Donc là, si on comprend bien avec l'arrivée de, notamment de nouveaux traitements, la dermatologie va regagner un petit peu ses lettres de noblesse.
C'est ça, on a l'impression quand même qu'en dermatologie aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés. Les laboratoires s'intéressent de plus en plus aux pathologies dermatologiques, que ce soit le psoriasis, qui a fait beaucoup d'avancées ces nombreuses années. Là, en ce moment, c'est vraiment la dermatite atopique qui évolue hyper rapidement. Et puis, on a d'autres maladies, la maladie de Verneuil, par exemple, des maladies un peu aussi de niche, mais qui finalement sont assez fréquentes dans la population générale, qui évoluent avec des nouveaux traitements et qui va nous permettre aussi de soigner, on va dire, de plus efficacement nos patients.